Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Allô Radio Immo, l'émission qui vous donne la parole, hein, qui donne la parole aux auditeurs. Je rappelle que vous pouvez nous suivre et nous envoyer vos questions sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Enfin, on est présents partout, sur tous les réseaux. Pour m'accompagner, deux experts, comme chaque semaine. À ma droite, Muriel Huel, bonjour.
Bonjour.
Et à ma gauche, Maître Victoria Garnier-Vigier, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter toutes les deux. Donc, Maître Huel, vous êtes associée chez Sowen.
Alors, Muriel Huel, je ne suis pas encore maître. Mais oui, donc je suis associée chez Sowen. Donc, Sowen, nous sommes créateurs de lieux de vie pour les entreprises. C'est-à-dire que nous proposons à nos clients un accompagnement clé en main dans leur projet d'aménagement. Donc, qui va d'un concept à l'architecture d'intérieur, la réalisation de travaux, le mobilier, la décoration, l'identité visuelle. Voilà, une approche vraiment 360 degrés.
Super, on va rentrer un peu plus en détail dans quelques instants. Maître, cette fois-ci, Victoria Garnier-Vigier, donc vous êtes notaire chez Invictus Notaire Paris dans le 17e, également auteur pour LexisNexis. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous connaissez nos studios. Justement, vous êtes venu parler il y a quelques semaines de labels, etc. Pouvez-vous déjà nous resituer, nous dire qui sont vos clients, ce que vous faites au sein de votre étude notariale exactement?
Oui, alors notre étude, donc Invictus Notaire, est principalement tournée vers l'immobilier et spécifiquement vers l'immobilier dit institutionnel. Donc, c'est l'immobilier des professionnels. Donc on accompagne des clients investisseurs, des grands groupes, des enseignes nationales dans leurs différents projets immobiliers. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement au sein de l'étude au sujet relatif à ce qu'on pourrait appeler l'immobilier à impact. Donc qu'il s'agisse de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou plus globalement les investissements dans l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS.
Des sujets très à la mode en ce moment. Muriel, qui sont vos clients chez Sowen?
Alors, nos clients, on a une variété assez large de clients, néanmoins, enfin le trait commun, donc ce sont en général des entreprises plutôt parisiennes ou franciliennes, à taille humaine, sur des projets d'aménagement entre 500 et 7000 m². Et ce sont des entreprises qui ont vraiment le souhait de créer des bureaux attractifs à la fois pour leurs collaborateurs et leurs clients, et qui mènent une réflexion autour des nouveaux modes de travail.
D'accord, donc télétravail voilà. Ou pas? Combien de jours par semaine plutôt?
Ça dépend des entreprises.
Ça dépend.
Oui.
D'accord. On va revenir justement dans quelques instants. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Victoria. On va parler, alors la dernière fois, vous nous aviez expliqué différents labels. Voilà, on va justement parler de ces nouveaux bâtiments. Sont-ils obligatoirement soumis à certains de ces labels?
Alors, en fait, c'est la question de démarche obligatoire ou volontaire. En fait, c'est les deux. Parce que d'un côté, vous avez l'obtention des labels et des certifications environnementales qui participent aujourd'hui d'une démarche totalement volontaire. En revanche, la loi du marché est telle que il est rare aujourd'hui d'avoir un immeuble neuf ou même un immeuble dans lequel on va faire des travaux qui ne va pas bénéficier d'une certification, voire d'une double ou d'une triple certification. Aujourd'hui, l'immobilier est entré dans une dynamique d'image de marque et donc le marketing de l'immeuble est un véritable enjeu de compétitivité. Donc de fait, aujourd'hui, même si ce n'est pas obligatoire, quasiment tous les immeubles neufs vont essayer d'avoir une certification. À côté de ces labels, il y a la réglementation qui, elle, est obligatoire. Donc, en fait, dans l'acte de construire et dans l'exploitation de l'immeuble, vous avez d'abord la réglementation, la norme qui s'impose à chacun des constructeurs et qui est obligatoire, donc par exemple la RT 2012 qui va être remplacée progressivement par la RE 2020.
D'ailleurs, on a des questions de nos auditeurs à ce sujet, on va y revenir tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Vous avez le décret tertiaire qui s'applique et qui est obligatoire, on en a parlé lors de la précédente émission. Et vous avez les certifications qui, elles, traduisent un engagement supérieur par rapport à cette norme et qui participent d'une démarche totalement volontaire du constructeur. Par ailleurs, dans certaines zones en France et donc dans certaines villes, il peut y avoir des démarches obligatoires dans ce qu'on va appeler par exemple les éco-vallées. C'est assez à la mode, il y a des mairies qui développent pas mal ces sujets-là. Et donc du coup, on retrouve l'insertion de certaines en fait, performances énergétiques et l'obtention de certains labels dans des bâtiments qui sont intégrés au sein même des documents d'urbanisme, donc des PLU, et qui du coup deviennent obligatoires dans le cadre de la délivrance des autorisations administrative des permis de construire.
D'accord. Muriel, pour l'aménagement des espaces de travail, est-ce qu'il y a des obligations maintenant à ce sujet ou pas encore ?
Alors, sur l'aspect environnemental, c'est moins normé que pour, en effet, l'immobilier et la construction. Néanmoins, c'est vrai que de plus en plus de clients s'engagent au niveau de l'entreprise dans un process de labellisation, par exemple le label Bicorp,
oui,
qui est un label voilà, au niveau de l'entreprise en général, et le siège social, en tout cas les bureaux, font partie des critères qui sont évalués par le label. Donc c'est comme ça qu'on a accompagné certains clients qui étaient en cours de labellisation Bicorp et où du coup tout le projet d'aménagement a été centré sur l'éco-conception pour participer à la démarche globale.
Donc les bureaux, les meubles aussi également.
Le mobilier,
tout,
les matériaux, oui.
D'accord. On parlait du coup de la RE 2020. On a reçu de nombreuses questions depuis des semaines de nos auditeurs et même un peu plus, des mois. Alors, qu'est-ce que la RE 2020 ?
Alors, c'est la première réglementation environnementale en France. Donc, à compter de janvier 2022, la France passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale qui est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus exigeante pour la filière construction. Donc, elle s'inscrit dans une action continue et progressive en faveur des bâtiments moins énergivores. Depuis 1974 qu'on a plusieurs réglementations thermiques qui se succèdent. La dernière en date, c'est la RT 2012, issue du Grenelle de l'environnement. Le respect des engagements de la France pris dans la lutte contre le changement climatique, récemment réaffirmé dans la loi énergie-climat, suppose que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. Donc je rappelle que le secteur du bâtiment représente un peu plus de 44% des consommations énergétiques nationales et c'est le plus gros consommateur d'énergie en France. Donc le secteur du bâtiment est d'ailleurs un enjeu central en matière environnementale. Et donc pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics ont mis en place une réglementation qui va au-delà d'une réglementation thermique, qui est une réglementation environnementale générale qui s'appelle la RE 2020. Et qui poursuit trois objectifs principaux, qui sont donc le premier, c'est poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la baisse des consommations dans les bâtiments neufs. Et on va au-delà de la RT 2012, qui avait déjà cet objectif, en insistant sur les performances en matière d'isolation, notamment des bâtiments, et en incitant au recours d'énergie renouvelable. Le deuxième objectif, c'est diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs et en prenant en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment dans son cycle de vie entier. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à la RT 2012, c'est qu'on va analyser le cycle de vie d'un bâtiment dans son intégralité, c'est-à-dire de sa phase conception, sa phase construction, sa phase exploitation et sa phase fin de vie.
D'accord.
Et donc du coup, on va inciter par exemple au recours aux matériaux biosourcés pour éviter l'impact, mais on prend le bâtiment dans sa vie, dans son cycle de vie.
Du début à la fin.
À la fin, exactement. Et enfin, le troisième objectif, c'est garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures, avec un objectif de confort d'été pour mieux résister aux fortes chaleurs notamment. Donc ça, c'est les trois objectifs de la RE 2020.
D'accord, donc un spectre beaucoup plus large que,
exactement,
que la réglementation thermique. Muriel, est-ce que vos clients, les entreprises qui font appel à vous justement, ont toute une stratégie RSE? Est-ce que c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous la proposez? Alors, avec justement la mise en place de cette RE 2020.
Alors toutes les entreprises n'appuient pas, on va dire, avec la même intensité sur la pédale de la stratégie RSE. Néanmoins, c'est quand même une grande majorité. Et nous, c'est vrai qu'on va, si la RSE fait vraiment partie des valeurs et de l'ADN de l'entreprise, forcément, on va chercher à proposer un concept d'aménagement qui soit cohérent et qui porte aussi ces valeurs et ce message.
Est-ce que vous proposez, j'imagine, à évoluer, notamment depuis les derniers confinements, depuis même 2020, en fait, ça a marqué un tournant. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est le cas pour vous dans votre métier au quotidien?
Alors, ça, c'est évident que l'aménagement des bureaux a été très fortement impacté par la crise sanitaire. Aujourd'hui, alors il y a une prise de conscience qui date pas de la crise sanitaire, mais quand même la prise de conscience écologique, elle est vraiment croissante dans la société et ça se ressent évidemment dans les stratégies des entreprises et du coup dans les briefs de nos clients. Après, évidemment, le télétravail imposé et massif de ces 18 derniers mois reste aujourd'hui a profondément transformé l'aménagement des espaces.
Bien sûr. Et vous pensez que ça va durer, ça, d'un point de vue personnel?
Oui, je pense. Ouais. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un équilibre qui va se créer, mais c'est vrai que aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'en fait, l'organisation pouvait fonctionner avec des collaborateurs à distance et des collaborateurs en présentiel. C'est vrai que les collaborateurs y ont pris pour certains goûts. Donc c'est quelque chose qui va durer. Et justement, l'enjeu pour nos clients, c'est de convaincre les collaborateurs de revenir travailler au bureau.
Et de donner envie de revenir. Ouais. Victoria, vous faites du télétravail, c'est possible quand on est notaire?
Oui, on en fait. Alors moi, personnellement, j'en fais pas parce que je ne suis personnellement pas une grande fan du télétravail. Mais dans l'étude, on a beaucoup de gens qui sont en télétravail, soit des gens qui sont en télétravail quelques jours par semaine, et on a même des gens qui sont en télétravail,
full télétravail
et qui habitent en province et qui viennent quand ils ont des rendez-vous sur Paris ponctuellement, mais qui sont 5 jours sur 7 en télétravail.
D'accord. On parle justement de l'aménagement des bureaux. Le Covid a aussi perturbé les approvisionnements en matières premières. Comment ça se passe de ce côté-là? Quels matériaux vous utilisez désormais? Est-ce qu'il y a eu des changements notables?
Alors forcément, ça a impacté toute la filière, et pas que cette filière-là, au niveau des approvisionnements et surtout des délais. Donc aujourd'hui, tout est disponible, mais le sujet, c'est dans quel délai. Et c'est vrai que du coup, on jongle un peu en fonction des critères de disponibilité des différents matériaux pour pouvoir livrer les projets dans les temps.
Victoria, vous aussi, vous accompagnez du coup vos clients du début à la fin. Est-ce qu'il y a des délais qui sont rallongés? Est-ce que, enfin, j'imagine aussi pour vos clients parfois, est-ce que...
Ah bah oui, après c'est sûr que ça dépend quand on est sur des immeubles neufs, donc les délais de livraison peuvent être allongés. Donc nous c'est surtout ça. Après sur l'aménagement, nous on est moins concernés parce qu'en
bien
général
sûr.
On aménage une fois qu'on a acheté son appartement. Ouais. Donc nous on intervient
mais
au moment
de l'achat.
Mais
je parle dans la construction parce que les matières premières impactent aussi la construction.
Exactement,
de bâtiments.
Dans la construction, il y a eu des délais de livraison qui ont été rallongés.
D'accord.
Et c'est parti pour durer un petit peu, je pense.
Oui, apparemment, oui. Avec ce qui se passe en Ukraine aussi, les énergies deviennent plus rares. Et pour certains matériaux, il faut de l'énergie. Par exemple, le verre qui est impacté, puisqu'il faut des fours pour chauffer le verre. Enfin bref, c'est assez compliqué. On va parler, alors parce qu'on a justement des demandes de nos auditeurs, sur les tendances. Les tendances des aménagements de bureaux. Quelles sont les tendances du moment?
Alors, pour rebondir un peu sur la thématique aussi de l'émission autour de la conscience environnementale, c'est vrai que une des tendances maintenant qui s'installe assez fortement, c'est ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire la présence du végétal dans les aménagements, dans les espaces. En fait, l'être humain a besoin d'un contact avec la nature, même d'un contact visuel. Et le principe de la biophilie, c'est justement dans un aménagement, de pouvoir proposer à la fois du vrai végétal, de la lumière naturelle le plus possible, et même dans les formes, dans le design général des espaces, de retrouver une évocation de la nature.
D'accord.
Donc ça, c'est la biophilie. pour parler du végétal à proprement dit, donc c'est vrai que de plus en plus, on installe de plus en plus de plantes dans les entreprises, donc en général des plantes naturelles, donc avec aussi il y a toute une des services qui se créent autour de ça pour la location, l'entretien de
oui parce
de
que ça demande pas mal d'entretien
ça demande de l'entretien bien sûr oui
il y a les murs végétaux enfin moi j'avais un mur végétal dans un ancien travail et ça demandait un entretien énorme, je crois que c'était plusieurs fois par semaine des personnes venaient mais pendant des heures pour s'en occuper parce que justement c'est pas très enfin c'est pas naturel en fait des plantes qui poussent sur le mur est-ce que c'est vraiment écologique du coup ça?
Alors, la présence. Après, c'est une question de dosage, c'est-à-dire la présence de végétaux, ça ne va pas non plus nécessiter une présence H24 d'équipe d'entretien. Les murs végétaux, nous en général, on propose plutôt des solutions de plantes dites stabilisées, c'est-à-dire ce sont des plantes naturelles, mais qu'on a figées dans leur évolution. Du coup, en termes d'entretien, il y a pas besoin d'eau. C'est juste du dépoussiérage, plus ou moins. Donc, il y a des solutions qui existent pour rendre cette présence de la nature supportable et relativement facile.
Et moins compliquée en
moins compliquée en termes d'usage.
En entretien.
Voilà, exactement.
Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont prouvé que voir des plantes chaque jour, des arbres, c'est bon pour le moral et c'est bon pour... Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est prouvé.
Ça a été prouvé, ouais, c'est vrai.
C'est prouvé.
Dans votre étude, il y a des plantes ou pas?
Non. Non, on n'a pas de plantes, mais on va y penser.
Et ben voilà, essayez, faire appel à Soen. Est-ce que du coup, voilà, les entreprises qui ont fait appel à vous ont vraiment vu un impact sur leurs employés, sur...
Alors c'est vrai qu'une entreprise qui va du coup investir un peu son lieu de travail, enfin ses bureaux et les rendre attractifs, ça va aider à plusieurs égards. D'abord faire revenir les collaborateurs les plus réticents au bureau, et également aujourd'hui il y a quand même une course au talent, le marché de l'emploi est assez assez tendu, donc pour attirer les meilleurs talents, c'est vrai que le design des espaces et le confort et le côté chaleureux des bureaux jouent énormément.
Ça, attirer les talents, c'est le premier but des entreprises.
C'est le but de très nombreuses entreprises. Il y a vraiment une course aux talents et ça fait toujours partie des objectifs des projets en général sur lesquels on travaille.
Et quand ils font appel à vous, c'est ce qu'ils vous disent en fait.
Je veux des bureaux attractifs où les gens vont avoir envie de venir travailler, qui vont les inspirer, qui vont aussi nous différencier de nos concurrents.
Ouais, c'est intéressant. Victoria, alors, on parlait tout à l'heure de vos clients. Vous avez de nombreux clients institutionnels que vous accompagnez. Vous accompagnez également des particuliers?
Ah oui, en qualité de notaire et d'officier ministériel, on accompagne tous les clients et dans tous les domaines d'activité du notariat. Donc nous, on est principalement tourné vers l'immobilier, mais également le droit de la famille. Et la stratégie patrimoniale. Et dans ces clients, il y a évidemment des clients particuliers.
Et alors justement, on parle du droit de l'immobilier plus particulièrement. Quel est l'accompagnement pour ces particuliers? J'imagine qu'il est différent de celui pour les clients institutionnels, les professionnels de l'immobilier.
Oui, tout à fait. Il est différent parce qu'en fait, on n'est pas perçu tout à fait de la même façon par nos clients institutionnels qui nous considèrent vraiment comme un partenaire. Donc souvent ils sont attachés à une étude, on les suit depuis un certain temps, on a connaissance aussi de leur vision, de leur stratégie, et donc on est vraiment au centre de leur réflexion, on connaît leur projet futur, et donc du coup on a plus ce rôle de conseil. Et c'est vrai que les particuliers depuis un certain temps ils considèrent un peu le notaire comme l'enregistreur de l'acte, et ils viennent nous voir quand ils ont trouvé leur appartement, quand ils ont quasiment mis en place leur financement, et vraiment juste pour signer, on est la dernière étape et on a perdu un peu parce que on a peut-être été moins disponible pour les clients particuliers sur le côté vraiment conseil et le côté vraiment accompagnement, alors que nous on est des experts du droit et on a vraiment notre valeur ajoutée, c'est dans l'expertise juridique, c'est dans l'analyse des documents. On ne fait pas que compiler des documents, et faire une grande collection qu'on laisse dans un coin. Non, on les lit tous et on, voilà, on fait en sorte de sécuriser les actes.
Et les clients aussi.
Et les clients. Et si jamais il y a des problématiques, parfois on trouve des problèmes parce que oui, on lit ces documents et parce que l'immobilier est un sujet complexe et le droit en général, et ben on trouve des solutions. Et voilà, c'est notre métier, c'est notre valeur ajoutée.
Et c'est vrai que moi, j'ai une expérience personnelle qui m'a prouvé qu'un notaire peut vous sauver d'un gros
Exactement.
Problème. Et alors, j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son notaire, à appeler son notaire, parce que c'est la personne la plus qualifiée au final quand on veut faire un achat ou un investissement immobilier. C'est quand même le notaire qui s'y connaît le mieux.
Exactement. Et pas forcément, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Nous, les conseils chez les notaires sont gratuits. Donc, il faut en tout cas pas hésiter à l'appeler, ne serait-ce que pour s'orienter vers une bonne décision, pour aider à prendre une décision. Le notaire est sans doute la meilleure personne pour vous aider et vous accompagner.
Voilà, c'est noté. Non, mais faut
en
le dire.
Non, mais en amont, parce que souvent, ouais. on est sollicité trop tard. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire marche arrière que d'anticiper les sujets. Donc, très en amont, on peut quand même être de bons conseils.
Oui, le mieux, c'est même de solliciter le notaire avant même d'avoir trouvé le bien, en disant, je cherche, je veux faire un investissement ou je veux chercher ma résidence principale, etc. Voilà ce que je recherche. Et puis, comme ça, débuter l'accompagnement ensemble.
Exactement.
Muriel, alors on va revenir justement à l'aménagement de bureau et puis parce qu'on a des questions de nos auditeurs par rapport à ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé avec la crise du Covid, ce qui se passe en ce moment à l'international. Est-ce que du 100% made in France, c'est possible pour aménager des bureaux? Parce qu'on en rêve, on aimerait que ça se fasse, mais est-ce que c'est vraiment possible, vous qui êtes dedans?
C'est possible, mais c'est difficile, du 100% made in France. Après, il y a la France, mais il y a aussi l'Europe,
oui.
Et l'Europe proche. Ça, en revanche, c'est tout à fait possible.
Italie, Espagne, Allemagne.
Oui, l'Europe vraiment, vraiment proche. Et ce qui garantit aussi le fait de sourcer en Europe, que les matériaux, le mobilier, etc., respectent les normes sociales et environnementales du droit européen. Donc nous, c'est vrai qu'on s'attache sur nos projets, on est quasiment exclusivement sur la production française ou européenne.
Et ça, quand de nouveaux clients arrivent, est-ce qu'ils vous posent la question maintenant, depuis quelques semaines, là, avec ce qui se passe?
Bien sûr, oui, savoir d'où viennent les matériaux pour être aussi rassurés sur les délais.
Oui.
Voilà.
Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à trouver en Europe comme type de matériaux? Est-ce qu'il y en a?
Alors, dans notre secteur, tout ce qui est métaux, en fait, c'est long. Voilà, il peut y avoir beaucoup de retard. Et tout ce qui est également, on parle beaucoup des microprocesseurs, etc. C'est vrai que dans les équipements audiovisuels, tout ça, il y en a. Donc là aussi, il peut y avoir certaines pénuries.
Oui, c'est long. Et là, les clients, qu'est-ce que vous leur dites?
On explique. Après, les clients comprennent.
Hein. Ouais, après, c'est partout pareil.
C'est partout pareil, en fait.
Même pour les voitures, il y a des...
Par exemple, il y a beaucoup de tissus qui viennent du Royaume-Uni.
D'accord.
Le Brexit, ça a compliqué les passages de douane, etc. Donc là aussi, c'est des choses qu'on essaye d'anticiper.
Est-ce qu'au final, maintenant, c'est plus cher ou pas de faire du Made in France ou Made in Europe, sachant que le prix du transport a augmenté depuis...
Il y a moins de transport aussi, donc non, c'est pas forcément,
voilà, c'est ça.
C'est pas forcément plus cher. Non.
Et vos clients, ça en ont conscience aussi?
Oui. Ouais. Oui. Franchement, c'est vrai que cette démarche d'essayer de sourcer au plus local, au plus proche, est suivie parce qu'aussi, on arrive à rester dans des prix qui sont tout à fait raisonnables.
Et une dernière chose, tout à l'heure, on parlait du coup de la RE 2020 pour rester un peu dans cet ADN-là. Les matériaux recyclés,
oui.
Est-ce que vous en utilisez beaucoup?
De plus en plus.
Et quels sont-ils, du coup?
Alors, on va par exemple utiliser des matériaux recyclés dans les agencements, donc dans les menuiseries sur mesure pour faire des... par exemple des cafétérias, des espaces de convivialité.
Des plans de travail, par exemple.
Des plans de travail, voilà, où il existe plein de matériaux qui peuvent être vraiment sympas et assez design à partir de plastique recyclé ou voilà, il y a vraiment beaucoup d'innovations.
Est-ce que ça se voit visuellement ou pas? Est-ce qu'on se dit ah tiens ça c'est fait en plastique recyclé?
Non, pas forcément. Enfin, on se dit pas c'est du plastique recyclé. On
oui,
se dit
y a
là,
pas
c'est
des
un matériau.
Dedans,
Non, mais c'est ça a un look un peu différent, mais c'est tout à fait qualitatif.
D'accord. Voilà.
C'est tout à fait qualitatif. Après, par exemple, dans les sols, donc par exemple de la moquette ou du tissu pour revêtir les sièges, là aussi, il existe de plus en plus de gammes de tissus à base de fibres recyclées. Donc ça, c'est super intéressant comme travail de sourcing à chaque fois, d'essayer de trouver voilà, des matériaux qui ont une histoire à raconter là-dessus.
Et ça, du coup, j'imagine, ça fait partie de votre travail chez Sowen.
Tout à fait.
Vous allez à la rencontre, vous découvrez des matériaux que vous proposez ensuite
voilà,
à vos clients.
Tout le temps en recherche de fournisseurs, de nouveaux matériaux. Et il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet-là, donc c'est vrai que c'est très intéressant.
Ah oui, d'innovation.
D'innovation des fournisseurs,
des fournisseurs.
En fait. Bah, en fait, même dans le mobilier, il y a beaucoup. Enfin, voilà, l'innovation, elle porte beaucoup sur la durabilité, la qualité des matériaux, leur côté responsable. Donc, c'est très intéressant.
Et ça, pour terminer, Victoria, vous le ressentez, alors vous, même si c'est pour des achats, plutôt, c'est plutôt pour les murs, mais vos clients, comme vous les accompagnez, vous discutez beaucoup avec eux, est-ce qu'ils sont dans cette optique-là de recycler, de vraiment, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Oui, alors après, nous, encore une fois, dans l'aménagement, on les suit moins. Voilà. En revanche, on sait que les particuliers, au moment de l'acquisition, ils sont évidemment sensibles. Ils vont être sensibles à l'impact environnemental que va pouvoir avoir l'immeuble. Mais c'est beaucoup plus réservé que chez les professionnels. Ne serait-ce que parce que le marché de l'immobilier de particulier est beaucoup plus tendu.
Oui.
Donc nécessairement, le critère environnemental aujourd'hui d'un immeuble ne peut pas être en tête de liste des critères parce que, enfin, n'est pas une priorité. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de se loger avant tout, même si tout le monde est sensible à ce sujet et tout le monde se mobilise aujourd'hui, surtout chez les jeunes générations, sur les sujets environnementaux et en ce compris l'impact environnemental de son habitation.
Alors ça, c'est vrai que c'est un autre débat, vous reviendrez en studio, mais c'est vrai qu'il y a une pénurie de logements en France, donc forcément les nouvelles lois, je parle aussi du nouveau DPE, impactent encore plus le nombre de logements. Merci beaucoup pour être venu sur ce plateau. Merci Muriel Houël, associée chez Sowen.
Merci beaucoup.
Et merci Maître Victoria Garnier-Vigier, qui est notaire dans le 17e chez Invictus Notaire Paris.
Merci.
À très bientôt pour un nouveau radio. Allô Radio Immo.
Allô Radio Immo. Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.